10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est votre rendez-vous. On parle d'islam tous les vendredis, 1h, 10h, 11h avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe.
C'est tout ?
Bonjour, bah écoute, ah, oui, si tu me donnes la parole.
Non, mais il faut en faire plus.
Ouais, salam alaikum. Voilà. Kato, Ramadan, non, Mashi Ramadan.
Oh là 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 là, on va couper au montage.
Parce qu'il faut que je.
Jumu'a Mubarak.
Jumu'a Mubaraka. Jumu'a Mubaraka, c'est féminin, moi, Jumu'a.
Mubaraka.
Mubaraka, voilà, Mubaraka. À toutes et à tous, celles et ceux qui nous écoutent sur Beurre FM, tous ces vendredis matins de 10h à 11h. Afin de mieux comprendre sa religion, Inch'Allah, et tout au long de cette année, Inch'Allah, nous espérons, dans la continuité de ce mois béni du Ramadan, continuer à garder cet enthousiasme, cet engouement. Et donc, Philippe, ce matin, j'avais une question pour toi.
Non, moi j'ai dit que j'étais en grève.
Alors, ouais, tout le monde sait...
Vous avez le droit de poser une question, mais j'ai le droit de ne pas y répondre.
Allez-y. D'accord, j'ai le droit de poser une question, et tu as le droit de ne pas y répondre.
Qu'est-ce que voilà. C'est ça,
c'est rien, ça c'est mon masque. C'est mon masque que je mets.
Et vous posez votre masque sur la table.
Non, je le mets dans ma poche. Voilà, comme ça, il n'embêtera personne. Alors, tu sais que là, on est rentré dans le mois de Shawwal. C'est le 10e mois du calendrier lunaire.
Oui.
Et nous étions avant au 9e mois du calendrier qui s'appelle le mois du Ramadan.
Avant, on était Shaban.
Et donc, on était à Shaban, voilà, etc. Et la question qui se pose, c'est justement une personne m'a posé une question. Imaginons qu'une année. Le Ramadan coïncide avec le pèlerinage. Est-ce que je prie, je fais d'abord le pèlerinage ou bien je jeûne le Ramadan ?
Alors attendez, de toute façon, c'est simple, le pèlerinage c'est 2 mois et 10 jours après, donc ça peut pas.
Ah, bravo, t'es pas tombé dans le piège. T'es pas tombé dans le piège, bravo Philippe.
Non, mais elle est où votre question ?
La question, elle est justement que c'est un piège. J'ai voulu te piéger, t'es pas tombé dans le piège. Parce que, donc la question, bien sûr, bien entendu, même s'il y a ce décalage entre le calendrier musulman et le calendrier, on va dire, grégorien
ou solaire. Mais il est logique.
Jamais le Ramadan va coïncider avec le pèlerinage. Donc,
c'est le mois du Doul Hijja, c'est le mois du Hajj. Voilà.
Alors, pourquoi je te dis ça ? C'est parce que tout le monde sait que le calendrier musulman, il y a 12 mois lunaires, et qu'il y a parmi ces mois des mois bénis, des mois du pèlerinage et des mois sacrés. Mmh. Alors, c'est important que chacun d'entre nous comprenne quelle est la différence entre ces trois catégories-là. Mmh.
Il y a 4 mois sacrés.
D'abord, il y a 4 mois sacrés. Les mois sacrés, ça n'est pas le Ramadan, c'est le mois. Non, c'est même pas le mois où on est aujourd'hui.
Non.
C'est le mois prochain. Qui est le 11e mois.
Qui précède le pèlerinage.
Voilà, le 11e mois du calendrier lunaire, qu'on appelle en arabe Shahrun Muharram. Muharram, sacré. Il est sacré, il est Muharram. Alors pourquoi on l'appelait Muharram ? Parce que c'est une réalité ancestrale qui existait avant l'avènement de l'islam, qui considérait ces mois sacrés comme une période de trêve. Puisque, comme tout le monde le sait, contrairement à ce que l'on croit, la réalité de la population arabe, des tribus arabes à l'époque, était qu'ils n'arrêtaient pas de s'entre-déchirer tout au long de l'année, le plus faible, le plus fort, tout constamment en train d'essayer de s'accaparer, de bouffer le plus faible.
Donc on pouvait pas faire la guerre en fait.
Voilà. Pendant cette période-là, strictement interdit pendant toute l'Arabie, tous ceux qui voulaient se déplacer vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage à la Mecque pouvaient le faire en toute quiétude, en toute sérénité, sans craindre d'être attaqué par une. Vous savez, c'est un peu comme on a déjà vu quand on était jeune, Philippe, les films de cow-boys. Vous avez des tribus indiennes, vous savez, et vous avez des territoires qui appartenaient à ces tribus-là. Quand une caravane américaine, on va dire américaine entre guillemets, européenne, on va dire, entrer dans le territoire des Apaches, ben ils se faisaient attaquer par les Apaches. Quand ils arrivaient sur le territoire des Cheyennes, ils se faisaient attaquer. Eh ben, c'est un petit peu la même chose. L'Arabie Saoudite, dès qu'une caravane entrait dans le territoire d'une tribu, forcément, vous y aviez des brigands, vous avez des... Bon, c'était bien entendu en négociation avec souvent les responsables, les leaders de ces tribus-là. Et donc, finalement, ces tribus-là, constamment, étaient entre-déchirées par une volonté soit d'agresser ou soit de vengeance, d'esprit de vengeance. Et c'est toute l'année. Mais au moment de l'arrivée des mois sacrés, les mois du Muharram, tout s'arrêtait, tout se suspendait pour permettre à chaque arabe, c'était pas des musulmans, c'était des mouchriquines, c'était des idolâtres. Mais ils allaient accomplir le pèlerinage à la Mecque. Et donc, ils allaient à la Mecque et ils allaient donc voyager dans l'Arabie en toute quiétude. Et notamment, les Arabes de la Mecque en profitaient pour faire du commerce et arriver à combler leurs besoins pour toute l'année. C'était des saisonniers, hein, finalement, les Mecquois. Ils attendaient cette période Muharram pour vivre, finalement.
Pour se remplir les poches.
Parce qu'il n'y avait que ça. Tu sais, Philippe, à la Mecque, il n'y a rien. Il n'y a ni agriculture, ni industrie, ni je sais pas moi quelle autre manière économique de par exemple ou une Silicon Valley intellectuelle ou une mine de cerveau. Non, il y a rien là-bas. C'est une ville qui vit par et pour le pèlerinage. Hein, par l'accomplissement des pèlerins venus de toutes les contrées pour faire le pèlerinage, c'est cette baraka que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a fait venir quand Allah azawajal lui a dit il lui a dit quoi Allah, il lui a dit fais l'appel à la prière, fais l'appel à l'adhan, l'adhan pour le pèlerinage. Dieu dans le Coran il dit wa adhin fil nas bil hajj, wa adhin fil nas bil hajj, appelle au pèlerinage, au Ibrahim, Dieu dit à son prophète et à son bien-aimé Khalil, Ibrahim al-Khalil. Et là, Ibrahim s'étonne, il dit, je suis dans un désert, il n'y a rien, il n'y a personne autour de moi, Philippe, pardon. Et comment ma voix pourrait-elle porter et atteindre les oreilles et les esprits de ceux qui se trouvent à des milliers de kilomètres d'ici? Et là, Dieu lui répond, lui dit, « Alayk al-adhan wa alayna al-balagh » À toi de faire le adhan, ya Ibrahim, et à nous de transmettre ta voix et ton appel à tous les gens à travers le contré. Il dira donc ensuite, ya'touka rijalan wa ala kulli damirin. Rijalan, ça ne veut pas dire des hommes, hein. Rijalan, yani yamshuna mushatan, ay ala arjulihim. Ils viendront à pied. C'est ça ce que ça veut dire le mot rijalan. Et non pas homme en opposition à femme, hein. Puisque rajul, pluriel de rijal. Là, c'est le pluriel de Rajil. Rajil, c'est celui qui marche à pied, le piéton, qui est contraire de ala kulli damir, c'est celui qui monte sur un animal. Damir, c'est la monture, c'est le chameau, c'est les moyens de transport de l'époque. Wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amir, ils viendront de toutes les contrées. Donc, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a fait cet appel et Rabbil Alamin fait en sorte que nous soyons le miracle de Dieu sur terre. La réalisation du miracle de l'appel de Sayyidina Ibrahim, puisque tous les ans, ce sont des millions de gens qui viennent pour accomplir ce pèlerinage à la Mecque. Demain, si les vannes se s'ouvraient totalement pour laisser aux gens la possibilité de venir à la Mecque, je peux te garantir pas moins de 100 à 200, voire même jusqu'à 500 millions de musulmans, peut-être même la moitié des gens de la planète iraient accomplir leur pèlerinage au même moment. Mais heureusement que les autorités saoudiennes limitent le nombre de visas. Mais Philippe, tu t'imagines pas. Rien que l'Algérie, on y a plus d'un million de demandeurs, de gens qui veulent y aller. Mais il n'y aura seulement que 45 000 places accordées à tous ces pèlerins qui partiront. Je parle que de l'Algérie. Ouais. Bah imagine si on devait ouvrir les vannes, eh bien ça serait des millions. Donc pour tout ça, pour rappeler que le mois de Ramadan est un mois béni. Il n'est pas sacré. Et ça n'est pas un mois du pèlerinage.
C'est un sacré mois, mais c'est un mois béni.
C'est un mois sacré, mais qui n'est pas sacré.
C'est un mois sacré, mais c'est un mois béni.
Qui n'est pas sacré et qui est béni, bien entendu. Shahrou Mubarak, voilà le terme en arabe. Ensuite, nous avons le mois qui suit, qui est le mois de Shawwal, qui est un mois du Hajj. Oui, Shawwal fait partie des mois du Hajj. Puisque les mois
Les gens partaient déjà.
Ouais, tu peux partir pendant le mois de Shawwal pour accomplir le Hajj. Et si tu fais la Umrah en arrivant à la Mecque pendant le mois de Shawwal, tu peux le considérer comme étant la Umrah du Hajj. Et donc rester et faire du commerce, c'est ce que faisaient beaucoup d'Arabes qui partaient très tôt à la Mecque pendant le mois de Shawwal. Dieu dans le Coran dit وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Il n'est pas interdit à l'un d'entre vous que s'il souhaite acquérir des biens de ce bas monde alors qu'il est en train d'accomplir les rites du pèlerinage, ça n'est pas interdit que d'avoir cette double intention, que de gagner sa vie au pèlerinage et qu'à la fois d'accomplir les rites et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla dans une démarche spirituelle. Donc ça c'est un point. Donc Shawwal est un mois du pèlerinage, mais n'est pas un mois sacré. Ensuite viennent les deux mois qui est le 11e et le 12e mois du calendrier lunaire, que sont le mois Dhul-Hijja et Dhul-Qa'da et Dhul-Hijja. Le mois Dhul-Qa'da et Dhul-Hijja sont à la fois des mois du pèlerinage et à la fois des mois sacrés. Donc nous avons Dhul-Qa'da et Dhul-Hijja, le 11e, 12e mois et le 1er mois, qui sont des mois du pèlerinage. Mmh. Mais sur ces trois mois-là, seuls deux sont sacrés.
Ceux
du pèlerinage.
Celui d'après n'est pas.
C'est-à-dire que Shawwal est pèlerinage, mais pas sacré. Dhul-Qa'da et Dhul-Hijja sont sacrés et pèlerinage. Et Muharram est sacré, mais pas pèlerinage. Tu vois un petit peu? Voilà, je ne sais pas s'il faut que je le répète pour que les gens le retiennent et comprennent bien ce que je dis. Shawwal est pèlerinage, mais pas sacré. C'est le mois où nous sommes aujourd'hui. le mois que nous vivons, le Shawwal. On jeûne six jours du mois de Shawwal, qu'on appelle Sabrine, etc. Et tout à fait honorable de jeûner ces six jours afin de considérer sa pratique du jeûne comme étant le jeûne de la vie. Celui qui jeûne le ramadan et fait suivre son jeûne de six jours pendant le mois de Shawwal, eh bien, c'est comme si qu'il aura accompli le pèlerinage de toute une vie. Ensuite, vous avez Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, le 11e et 12e mois, qui sont des mois à la fois pèlerinage et à la fois sacré. Et ensuite, vous avez le premier mois du calendrier lunaire, Muharram, qui lui est sacré, mais n'est pas pèlerinage. Il n'est pas un mois considéré comme étant un mois lié au pèlerinage. Donc, voilà pour ce qui est des explications concernant. Alors, une question qui revient souvent et
Rajab n'est pas sacré ?
Oui, Rajab est sacré, mais c'est le septième mois, c'est oui, là qu'il est loin. Mais tout à fait, tu as raison, bien fait de le rajouter, puisque c'est le quatrième mois isolé, sacré. Qui est isolé au milieu de l'année, le septième mois, qui lui est seulement sacré. Il n'est ni pèlerinage, ni béni, ouais, on peut dire qu'il est quand même un peu béni, mais il n'a pas été cité comme, on dit, attends, comment on l'appelle Rajab ça va me revenir. En tout cas, il a un surnom, Rajab. Voilà. Ça va me revenir.
On va retrouver ça.
Donc,
parce qu'on dit toujours que si on fait une omra pendant le mois de Ramadan, ça équivaut pour un hajj.
Oui, tout à fait.
C'est pour vrai ça qu'on dit il est béni.
Tu te rappelles de quand on avait défini qu'est-ce que ça voulait dire le mot baraka? Baraka.
Oui.
Quand on dit quelque chose est mubarak, ça veut dire que. Tout simplement pour ne pas que les gens imaginent quelque chose de mystique, incompréhensible, mystérieux. Il n'y a rien de mystérieux dans le mot baraka. Le mot baraka, c'est la multiplication, le gonflement, l'augmentation des mérites d'un acte, d'un petit acte accompli dans une période qui est concernée par la baraka de Dieu ou dans un endroit concerné par la baraka de Dieu. C'est justement l'un des sujets que je vais évoquer tout à l'heure à la Grande Mosquée de Paris. En tant que Khatib Jumu'ah, je vais parler de ces endroits.
Ah bon?
Oui, je vais parler. Puisque nous avons.
Vous allez refaire Jumu'ah à la Mosquée de Paris?
Oui, je vais faire Jumu'ah à la Grande Mosquée de Paris.
C'est la deuxième fois, là?
Ça va faire la deuxième fois, Inch'Allah. Bon,
moi, je dis, il va y avoir la voiture présidentielle bientôt en bas.
Bientôt, ce chauffeur. Voilà, c'est ça. Chauffeur.
Dis donc, l'imam, comment il était, comment il est devenu.
Ouais, ben dis donc. C'est une mosquée, hein. C'est pas plus qu'une mosquée. C'est vrai qu'elle est particulière, cette mosquée. Il faut parler. Il ne faut pas oublier que la Grande Mosquée de Paris, c'est le premier pieu de la présence musulmane en France. Il faut le dire. En 1926, ce grand cheikh, ce grand magistrat algérien qui s'appelle Qaddour Ben Rabrit, qui est le fondateur de cette mosquée, eh bien, lui, avant de construire la mosquée de Paris, il détenait, écoute bien Philippe, c'est un truc extraordinaire qu'il avait. Il avait une société, Philippe écoute bien, qui s'appelle la Société des Habous, des lieux saints de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire la société? Et aujourd'hui, la mosquée de Paris, aujourd'hui, est la propriété de cette société, ou de cette association qui porte ce nom. La Société des Habous, des lieux saints de l'islam. C'est pourquoi? C'est pas que des mots, hein. C'est parce que cette société-là, dont le propriétaire et dont le gérant était Qaddour Ben Rabrit, hein, cet homme qui est aujourd'hui enterré dans les jardins de la mosquée de Paris, détenait, écoute bien Philippe, des biens immobiliers à la Mecque. C'est bien, c'est-à-dire des maisons, des bâtiments qui avaient pour objet, qui étaient mis à la disposition par l'État saoudien à l'époque, afin d'accueillir les pèlerins musulmans venus de France. Et ça appartenait, donc finalement, ils en étaient les détenteurs, les seuls utilisateurs, c'est-à-dire, voilà, ils en avaient l'usufruit, ils pouvaient l'utiliser comme ils le souhaitaient. Et donc ces pèlerins qui partaient de France étaient acheminés par la Société des Habous, des lieux saints de l'islam, par un processus logistique de transport. Vous aviez des moyens terrestres et des moyens maritimes qui étaient mis à la disposition, notamment à Marseille. Un bateau partait vers la Mecque avec des centaines et même des milliers de pèlerins partis de France pour accomplir le pèlerinage à la Mecque avec la bénédiction du gouvernement français. Et c'était Qaddour Ben Rabrit, le fondateur de la mosquée de Paris, qui en est finalement le détenteur de cette société-là. Et avant d'être là, il était au Maroc. Il travaillait au palais du roi, du sultan marocain de l'époque, qui avec lui vont inaugurer ensemble à la fin de la construction de la mosquée de Paris en 1926, et en présence aussi de Philippe Grenier, hein, premier député musulman de France. C'est un moment historique. 1926 est un moment extraordinaire qui a débuté dès 1922, au début de la construction de la mosquée de Paris. L'année prochaine, nous allons fêter, Inch'Allah, le 100e anniversaire de cet événement exceptionnel, extraordinaire. Donc, c'est véritablement notre héritage islamique français qu'il faut bien mettre, bien intégrer dans nos esprits, parce que beaucoup de gens se sentent ici comme des invités de la France. Je rappelle à tout un chacun que ce sont aussi, je dis pas seulement, mais aussi nos grands-parents qui ont libéré la France de la, l'oppression nazie dans les années 40. Ce sont des armées et des compagnies franco, des colonies françaises au Sénégal, des, les Goums, des tirailleurs sénégalais, etc., qui ont libéré la France. Ce sont aussi nos parents qui ont construit ce pays, les routes, les ponts, les bâtiments, les grands ensembles de construction d'habitations. Ce sont beaucoup d'ouvriers venus du Maghreb qui ont mis la main à la pâte pour construire ce pays-là. Donc nous n'avons pas à nous sentir des parias. Moi, je voudrais que chacun soit fier et ne se sente pas obligé d'être fier d'être français, d'être fier d'être musulman, et ne se sente pas obligé de choisir entre les deux, entre être français et être musulman. Soyez tout simplement des Français de confession musulmane, et point barre, et on arrête là, et on passe à autre chose, et on s'émancipe, et on s'épanouit en France, français comme on est, comme tout le monde.
Voilà, et vous pourrez poser vos questions en direct à l'imam Abdelali Mahmoud dans un instant. Hein. Je rappelle le numéro du standard, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mahmoud en direct au 01 53 48 3000. On a Adjar qui nous appelle depuis Toulouse. Imam Abdelali Adjar, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Je me permets de vous contacter aujourd'hui parce que j'ai une petite question. Je suis en fait de 7 mois et j'attends un petit garçon, Charlin. Et j'aurais voulu avoir une information par rapport à un prénom parce que je vois des informations contradictoires. Et j'aurais voulu avoir votre lumière.
Ben, donnez-moi, c'est quoi le nom, ce prénom-là?
Alors, le prénom, ça s'appelle, enfin, c'est Elouane. Alors, je l'ai vu écrit H-E-W-A-N et E-L-O-U-A-N.
Mmh. D'accord.
Et j'ai lu que c'était d'origine berbère. Donc.
Bon, alors écoutez, si c'est un mot qui est d'origine berbère, je ne peux pas, moi, lui donner une explication en arabe. J'ai le mot laoun qui est une couleur entre le noir et le blanc, et en passant par le rouge, c'est la couleur laoun. Elouane, Elouane, c'est le pluriel de laoun, et par contre avec un i, on commence par Elouane. Il n'y a aucun mot arabe qui a cette signification Ilouane en arabe.
Mais vous regardez sur quoi?
J'ai mon petit réseau.
Vous avez votre réseau parce que là, je...
Non, mais
c'est calendrier des prénoms.
Il y a ce qu'on appelle sur Internet un site qui s'appelle Mouajem. Et Mouajem, c'est un petit peu le dictionnaire global des mots et puis leur origine. Donc à partir de là, dans le mot Ajam que je lis à l'instant, il n'y a aucun mot qui a une origine dans le mot, signifie le mot Ilouane avec un I. Laoun et Alouane on a, mais Ilouane, il n'y a pas de mot Ilouane en arabe. Par contre, quelle est la position de l'islam de tous ces noms que l'on veut donner à nos enfants? Eh bien tout simplement l'indifférence légale. Ça veut dire qu'il est autorisé jusqu'à qu'on prouve le contraire. Si ce mot-là n'a pas une signification incompatible avec la foi et le credo musulman, vous avez le droit d'appeler votre enfant comme vous voulez. Et que la notion de prénom musulman, ça n'existe pas en islam.
D'accord.
Je répète, il n'y a pas de prénom musulman. Il peut y avoir des noms qui ont rapport avec la foi musulmane. Je ne veux pas nier que, par exemple, les noms des prophètes cités dans le Coran, les noms qui commencent par Abdullah, Abdulqa, avec le nom, un des plus beaux noms de Dieu qui va suivre le terme Abd, qui veut dire serviteur de. Moi, par exemple, je m'appelle Abdel Ali, serviteur de l'Auguste. L'Auguste, ça veut dire le Très-Haut. Hein, Al-Ali, Al-Ali c'est l'Auguste. Il y en a qui s'appellent Abdelkarim, serviteur du généreux, Abdullah, serviteur d'Allah, etc. Donc tous ces noms qui commencent par Abd, ce sont des noms à connotation religieuse parce qu'elles sont en rapport avec la foi en Dieu et l'adoration de Dieu. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir ce genre de nom? Non, la réponse est non. Parce que je rappelle que même les idolâtres, avant l'avènement de l'islam, croyaient en Dieu et appelaient certaines fois, parfois, leur enfant Abdullah. Et il y a énormément de Mekois, de Quraysh, qui s'appelaient Abdullah. Que ce soit à la Mecque ou à Médine. Par exemple, un qui est connu, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui est ce qu'on appelle le chef des hypocrites de Médine, s'appelait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et j'en passais des meilleurs, j'ai pas tout. Mais tous ces compagnons-là, même qui s'appelaient Abdullah, et qui sont nés avant l'avènement de l'islam, par exemple, Abu Bakr al-Siddiq, son nom c'est Abdullah ibn Uthman, son vrai nom c'est Abdullah. Et il s'appelle Abdullah avant l'avènement d'islam. Puisque les Arabes connaissaient Dieu, connaissaient Allah, mais ils lui associaient d'autres divinités. Donc, est-ce que nous sommes tenus de donner des noms à connotation religieuse à nos enfants? La réponse est non. Est-ce que nous sommes tenus de donner des noms à connotation arabe? Non, nous ne sommes pas tenus, nous ne serons pas jugés de traîtrise parce que nous avons décidé de choisir un nom d'origine africaine, asiatique, pourquoi pas même hébreu ou araméen ou autre, ou voire même qui est d'origine de la culture française, mais qui n'est pas en contradiction avec la foi musulmane. Si même, allez, je vais aller vraiment à l'extrême. Si j'ai envie de m'appeler, j'ai envie de mon fils François. Il est où le problème? François, hier là, mon fils, j'ai envie de l'appeler François. François, c'est ça veut dire français. C'est le vieux français. On disait quelqu'un qui est français, il est François. Parce que bon, j'ai envie d'intégrer mon. C'est mon choix, j'ai le droit. Il y a aucun problème. Ce qui va être important après, c'est s'assurer de l'éducation, de forger une identité musulmane à mon enfant, lui transmettre les valeurs de l'héritage que j'ai reçu de mes parents, qui est la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et qu'il d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah.
Je connais des François qui sont musulmans. Hein.
Ben bien sûr. Bon, c'est pas François Hollande ni François Bayrou.
Non, c'est pas François. Je pensais pas à eux immédiatement, mais
François Gabin, c'est qui ça?
Non.
Je connais Jean Gabin.
Oui,
mais pas François Gabin.
On va pas donner de nom, mais j'en connais.
Il y en a des François musulmans, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous voulez, madame, vous comprenez ce que je veux dire? Arrêtez de vous prendre la tête avec cette histoire de gens qui viennent vous dire, ouais, pourquoi tu l'as appelé? Qu'est-ce que ça veut dire ce nom? Etc. Appelez-le votre enfant comme vous voulez. Mais moi, maintenant, le conseil, non pas d'un imam, mais d'un frère, qui va vous dire, attention au nom qui pourrait porter préjudice à une certaine évolution de carrière et qui pourrait être un handicap pour votre enfant dans sa vie professionnelle ou scolaire. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est comme la dernière fois, pendant le Ramadan, un gars, il avait décidé d'appeler son fils Islam. Voilà, je lui ai dit, bon, Islam, d'abord, il n'y a aucun sahabi qui avait appelé son fils Islam, donc c'est même pas religieux, c'est même pas conforme au modèle du prophète qui n'a jamais lui-même appelé... l'islam, c'est le nom de la religion, on n'appelle pas un enfant du nom d'une religion. Donc, en plus, vous voyez bien dans ce contexte dans lequel on est, où l'islam aujourd'hui est sujet polémique, dès qu'à partir du moment où tu dis, moi je m'appelle Islam, c'est tout de suite, bon, qui m'a essayé d'apaiser, je me rappelle, en disant, ouais, en relation avec le footballeur Islam Soudani, c'est Soudani, c'est ça? D'un joueur de foot de l'équipe d'Algérie. Ok, d'accord, mais on n'est pas en Algérie, là, on est en France. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention au contexte dans lequel on vit. Et je dis bien, il s'agit simplement de simples conseils. Il ne s'agit pas d'injonctions dans lesquelles j'exige quoi que ce soit. Je n'exige rien du tout. Faites comme vous voulez avec vos enfants. Vous les appelez comme vous voulez. D'accord ?
D'accord.
Il n'y a pas de contrainte.
Très bien, mais c'était ma question.
Et c'était la réponse de l'imam Adjar.
Ilouane n'est pas un nom arabe, mais c'est pas grave. Et alors, c'est très bien, Ilouane. Ça a une bonne sonorité. Ilouane, allez, on y va.
J'ai lu d'un côté, c'était breton.
Il n'y a pas besoin de lire quoi que ce soit, ça vous plaît, appelez-le comme ça, point barre. Ça vous plaît. Même si, vous savez, il y a même des Français qui inventent des noms, des nouveaux sons qui n'ont rien à voir dans l'héritage. Et quand on a dit, mais c'est quoi ce mot-là? Ben, c'est moi qui je l'ai inventé. Il y a des gens qui inventent des noms, tout simplement. Et pourquoi pas?
Bon.
Pourquoi devrions-nous nous imposer l'héritage de nos ancêtres?
Voilà, merci. Alors, on a Mohamed qui est avec nous au 01 53 48 3000. Mohamed, bienvenue.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, Mohamed.
Wa alaykoum salam.
Comment allez-vous?
Ça va et vous, Mohamed?
Salam alaykoum, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah.
Bonne fête de l'Aïd.
Aïd Moubarak, Saïd, wa kullu am, antoum bi khair, laka wa li jami'i aqaribika wa ahbabik ya akhi al-karim.
Inch'Allah.
À toi et tous tes proches, Inch'Allah.
Un grand respect à vous, monsieur.
C'est réciproque. Beaucoup de respect, beaucoup de fraternité, Inch'Allah.
Ben, en fait, cher, en fait, j'aimerais bien avoir une réponse sur ma question pour ça concerne la zakat. si c'est possible.
Allez-y, vas-y, ne donnez pas de titre à vos questions. Posez-la directement.
En fait, j'ai une certaine somme en Algérie. Mais l'année dernière, on va dire 200 millions. Et l'année dernière, j'ai fait sortir la zakat. Et cette année, la somme, elle n'a pas bougé. Est-ce que chaque année, je sors la zakat ou bien...
Est-ce que chaque année, tu fais le ramadan?
Oui.
Bah, tous les ans, tu verses la zakat. La zakat est une obligation annuelle.
Oui.
Donc, sur la même somme d'argent que tu n'as pas consommé, que tu as laissé thésauriser. En français, thésauriser, ça se dit en arabe, el-kenz. Hein, thésauriser. Alladhina yaknizuna al-dhahab wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashirhum bi'adhabin alim. Donc, kenz, taknizu al-dhahab wal-fiddata, yajouzu bichart an yukhraja minha zakat. À partir du moment où on s'acquitte de la zakat tous les ans de cet argent qu'on a thésaurisé, qu'on a mis de côté, qu'on a épargné, que l'on n'a pas utilisé, qui est resté endormi pendant un an et qui a atteint le nisab, en l'occurrence vous 200 millions, ça fait 10 000 euros, donc vous avez largement atteint le nisab, qui est de à peu près un peu moins de 4 000 euros là aujourd'hui, eh bien vous devez bien entendu vous acquitter de la zakat puisque vous avez dépassé le seuil minimum concerné par la zakat. Est-ce que vous avez compris?
Mais cher, est-ce que c'est cette somme, c'est par exemple, on va dire, si ça bouge pas cette somme pendant 10 ans, j'aurais pu.
C'est pour ça que l'islam a imposé cette zakat pour inciter les gens à consommer et à ne pas laisser endormir leur argent. Parce que quand l'argent circule, c'est ça qui fait vivre l'économie d'un pays. L'argent, on ne doit pas le mettre de côté. Allez, pourquoi tu mets l'argent de côté? Il faut se faire circuler l'argent. Donc ça veut dire que si tu dépenses ton argent, tu n'auras pas de zakat à payer. Mais si tu le laisses endormi, tu devras payer la zakat. Je rappelle à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui ont peut-être mal compris la situation, la zakat ne concerne pas les revenus. Mais elle concerne l'argent des revenus que vous n'avez pas, ou des recettes que vous n'avez pas dépensées, que vous avez mis de côté. Si vous gagnez de l'argent, vous le dépensez, il n'y a pas de zakat. Mais à partir du moment où vous le mettez de côté, c'est à ce moment-là, si vous l'avez laissé endormi pendant un an, que vous êtes assujetti à la zakat. Et bien entendu, il faut qu'il atteigne les sommes.
J'ai bien compris, cher. Oui, mais cette somme, ça bouge pas, elle bouge pas.
Eh ben, tu payes.
Là, on va dire tous les ans. Pendant des ans après.
Tu payes tous les ans, mais tu peux la payer en France. Hein, t'es pas obligé de sortir de l'argent même. Hein. Par exemple, t'es pas obligé d'aller tirer l'argent en Algérie de cet argent-là pour payer la zakat, qui, je rappelle, est de 1 sur 40. Si tu peux en France calculer, par exemple, 10 000 euros, t'en as pour 250 euros de zakat. Tu les verses ici en France, 250 euros. Sur les 200 millions. 200 millions, ça fait 10 000 euros environ. J'ai dit bien environ. Hein. Tous les ans, de 10 000 euros, ça fait 250 euros de zakat. Mais attention, 250 euros, c'est pas pour les gaspiller, les jeter à la poubelle. C'est pour les donner aux pauvres. C'est ce qui leur appartient de ton argent. C'est l'argent qui appartient aux pauvres. Donc si tu donnes pas la zakat, c'est comme si tu as volé des pauvres.
Oui, mais cher, Allah, j'ai pas compris. En fait, c'est cette somme. Par exemple, est-ce que je peux parler en arabe, cher?
Non, t'fadl akhi, ne tarjim ba'd. On va traduire.
La somme, hadi, c'est par exemple, elle bouge pas pendant, on va dire, pendant.
Hadi, France, oui, hadi, c'est pas de l'arabe.
En arabe, tu grattes un peu d'argent, c'est pour ça.
Voilà, allons-y, yallah, zid akhouya. Wach nawa soual ta'ak?
La somme hadi, c'est elle m'tahrekch pendant 2 3 ans 4 ans. Mais la somme hadi, c'est-à-dire nkharej minha zakat chaque année, mais elle a pas bougé, cheikh. Est-ce que
justement, c'est parce qu'elle n'a pas bougé que tu verses la zakat. Si elle avait bougé, si tu l'avais dépensé, tu aurais pas payé zakat. Mais parce que tu ne l'as pas, tu l'as laissé endormi, c'est à cause de ça que tu vas payer zakat. Et tu vas verser 1 sur 40. Tu vas diviser 10 000 euros par 40, ça fait 250 euros. Et tu vas donc donner aux pauvres 250 euros. C'est à eux. Hadi 250 euros, t'as les 10 000 euros, t'as Al-Jazair. Ou là, عندك عاوتاني في فرنسا ودراهم خليتهم على الجنب. Tu as aussi de l'argent en France que tu as thésaurisé ici en France, que tu as mis de côté en France. Eh bien, tu dois les additionner à ces 10 000 euros que t'as en Algérie. Donc, c'est 200 millions. On va parler en dinars algériens, mais qu'il faut traduire en euros français. Eh bien, européen, on va dire, c'est ça. Eh bien, tu vas t'acquitter de l'ensemble, du cumul. Tu vas cumuler, par exemple, imaginons ici en France, tu as 3000 euros que tu touches pas, tous les tu les as mis de côté. Plus en Algérie, tu as 10 000 euros, ça fait 13 000. Eh bien, tu vas payer la zakat sur 13 000. Tu additionnes ce que tu as ici et ce que tu as là-bas, tu divises par 40 et tu verses le résultat aux pauvres. Je dis bien aux pauvres. Maintenant, si tu as quelqu'un dans ta famille qui est pauvre, un gendre, une tante, khala, ils sont prioritaires sur cet argent.
Parce qu'en fait, j'ai mon frère, il travaille pas, mais là, il est marié, il a des enfants. Il n'arrive pas, c'est-à-dire...
Donc, s'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, il est considéré comme quelqu'un de nécessiteux. Donc, oui, tu peux lui donner la zakat.
Voilà, et là, mes parents, est-ce que je peux...
Non, on ne peut pas les ascendants et les descendants. Parce que les parents, c'est comme toi. C'est comme tu ne peux pas la zakat à toi-même. Tu ne peux pas donner la zakat à tes enfants, aller faire tes courses avec l'argent de la zakat et donner à tes enfants. Eh bien, les parents, c'est pareil. Il y a un devoir de solidarité réciproque. Il n'y a pas la majorité qui crée une séparation d'obligations financières et de soutien et de solidarité entre les enfants et leurs parents à la majorité. Les enfants restent solidaires de leurs parents et les parents restent solidaires de leurs enfants, quel que soit leur âge. C'est-à-dire, il n'a pas qu'on t'aide, je vais te nafaqa, mais je vais sadaqa. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Ouais,
voilà.
J'ai bien compris. D'accord,
Allah,
j'ai bien compris.
Barakallahu fik, cheikh. Wa fik al barakah.
Merci, monsieur Philippe.
Je t'en prie.
Merci, Mohamed. En tout cas, et puis d'autres questions à l'imam Abdelali Mamoun dans un instant. Vous nous appelez au standard au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun.
C'est vrai, vous parlez des ordures, des ordous. Non, de l'or qui est en deux mots.
Oui,
en deux mots.
Voilà, l'ordure.
Or.
Oui, l'or.
En général, quand c'est mélangé avec des métaux, il devient dur. Sinon, s'il est à 100% 24 carats, il est tout mou.
D'accord. Et d'ailleurs, le statut de l'or en islam est particulier. On a le droit de porter de l'or?
Pour les hommes, non.
Voilà.
Les hommes, il est strictement interdit de porter de l'or.
On ne pourrait pas porter une montre avec un bracelet en or?
Ah non, une montre, c'est particulier parce qu'elle a une utilité, elle n'est pas, c'est pas un ornement. Donc, une montre en or, c'est autorisé. Même, de la même manière que si on a, par exemple, des boutons de manchette.
En or, ouais.
En or, ou bien des broderies avec des fils d'or. Ça aussi, c'est autorisé. Ce qui est interdit, c'est le vêtement en or. Par exemple, un vêtement, ou plutôt, on va pas dire l'or, mais on va plutôt utiliser le terme vêtement tissu de soie. C'est-à-dire la soie, c'est elle qui va être surtout être proscrit chez les hommes en tant que vêtement. Et ce qui est de l'or, c'est le bijou, l'ornement, ce qui va orner le corps. Par exemple, un collier, un bracelet, une bague, ça c'est interdit aux hommes. De toute façon, même s'il n'est pas en or chez les hommes, il faut le savoir, c'est une information exclusive que je crois ne pas jamais avoir évoquée à la radio, c'est qu'il est interdit aux hommes de porter des bracelets et des colliers, qu'ils soient en or ou pas.
Ah bon ?
Ah ouais, les hommes n'ont pas le droit de porter de bijoux autour du cou. On dit, qu'est-ce qu'on dit nous en arabe ? Il y a le collier, c'est soit une femme, soit un chien. Voilà, vous choisissez l'un ou l'autre. Le collier autour du cou, c'est soit pour un chien, soit pour une femme. Une femme met un collier parce que c'est une femme, elle s'embellit. Ou on met un chien, un collier pour l'attacher.
Voilà. Ouf, ouf. Allez, on a Safia avec nous au 01 53 48 3000. Safia, bienvenue.
Allô ?
Oui, bonjour Safia.
Oui, bonjour. Oui, je veux poser une question à l'imam.
Oui, allez-y, ouais, allez, profitez-en.
Oui, depuis le ramadan, je vous écoute. Et tous les jours, j'essaie de vous avoir et aujourd'hui, j'ai de la chance.
Ah, c'est le jour de chance, il faut en profiter.
Voilà, merci. Bon, je vous appelle pour les intérêts bancaires. Moi, chaque année, le mois de décembre, quand j'aurai mes intérêts, je les enlève.
Oui.
Mais je les donne à quelqu'un qui est pour payer son loyer. C'est-à-dire, il n'a pas les moyens pour.
C'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est le meilleur utilisation de la zakat, c'est ça. C'est de vous en débarrasser en les utilisant à bon escient, mais pas de manière excessive. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, dans une idée de vouloir faire les choses bien au maximum, c'est d'aller, par exemple, acheter des Corans avec. On n'achète pas des Corans avec l'argent haram. On va pas construire une mosquée aussi avec l'argent haram. Donc, on n'utilise pas l'argent de riba pour construire une mosquée. On peut éventuellement acheter... des produits d'entretien pour la mosquée, par exemple pour les sanitaires, on va utiliser l'argent de...
Ça
on peut faire aussi. Mais on ne construit pas les murs d'une mosquée avec l'argent de riba. Vous savez que même la Kaaba, quand elle a été reconstruite par le prophète et les mouchriquines, hein, qu'on parle les idolâtres, eh bien eux-mêmes, les Arabes, avaient exigé que l'argent utilisé pour la reconstruction de la Kaaba ne se fasse pas avec de l'argent sale, avec de l'argent de riba par exemple. Parce qu'eux-mêmes reconnaissaient que le riba, c'était un bien mal acquis. ne profite jamais.
Vous l'avez enlevé de la bouche.
En fait, moi, je parle des intérêts. Ça n'a rien à voir avec la zaquette.
Oui, oui, mais j'ai bien compris, madame. Qu'est-ce que c'est un bien mal acquis? Yani, le mal al haram, bien mal acquis. C'est un argent, draham, muktasaba min haram. Soit un kan riba ou la serqa, c'est la même chose. Soit de l'argent volé ou de l'argent spolié à des personnes à qui vous avez prêté de l'argent, vous avez épargné de l'argent et pour récupérer des intérêts qui est donc un acquis, un mal acquis, donc une mauvaise manière d'acquérir de l'argent. Cet argent étant mal acquis, de manière mauvaise, eh bien cet argent il n'est pas halal. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour construire des mosquées avec, vous ne pouvez pas l'utiliser pour acheter des Corans avec. Vous allez payer des loyers, construire une route, acheter une contribuer à une fontaine collective ou à la fabrication d'un dispensaire pour les nécessiteux ou d'un abri pour les dans l'espace public pour couvrir les gens de la pluie, n'importe quoi qui est utile aux gens. Même vous achetez des arbres ou trarsom, hein, vous allez planter, vous achetez des arbres, vous les plantez quelque part pour faire de la verdure, vous avez le droit de faire ça avec l'argent de riba.
D'accord.
Vous les utilisez pour les biens collectifs. C'est mieux.
D'accord. Et j'ai une autre question. Et cette question, c'était toujours dans ma tête. Ben, je sais que c'est la tarahim ou les liens familiaux obligés. Mais il y a des liens familiaux qui vous fatiguent. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont vraiment négatifs.
Alors, on va garder des termes généraux. Vous parlez de quelle catégorie de membres de la famille?
C'est-à-dire les beaux-parents.
Ah, la belle famille.
C'est-à-dire, ça fait 10 ans que je fais les efforts et tout, mais ça ne marche pas.
J'ai compris ça effectivement, ça arrive souvent que une belle famille n'accepte pas le choix de leur fils, n'accepte pas la femme qu'a choisi leur fils, et donc souvent ça.
Non, ça n'a rien à voir avec ça. Bon, mes beaux-parents sont bien avec moi, mais par jalousie, par exemple, c'est-à-dire si tu es bien avec votre mari, avec vos enfants, ça marche pas avec eux. C'est-à-dire par jalousie, ils vous font mal.
Eh ben donc ça marche pas bien. Alors pourquoi vous me dites ça marche bien? Ça marche pas bien.
Oui, c'est-à-dire...
Attendez, il faudrait savoir, soit ça marche bien et tout va bien, soit ça marche pas bien, ils sont jaloux, ils font du mal, etc.
Même si je les vois une fois par mois, je rentre pas bien chez moi. C'est tout simplement...
Madame, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement... Ils habitent loin, vos beaux-parents?
Non, justement, on est à côté...
Ils habitent pas loin, donc ça veut dire, madame, que vous n'êtes pas obligé de rester longtemps. Peut-être c'est parce que vous restez trop longtemps chez eux jusqu'à être gavé par leur attitude et leur comportement.
C'est-à-dire je reste 2 heures. Par exemple, je vis pas une fois par mois et je reste 2 heures. Ça, c'est pas beaucoup, non?
Non, il vaut mieux aller plus fréquemment et moins longtemps.
D'accord.
C'est-à-dire vous restez 10 minutes, un quart d'heure et vous y allez une fois par semaine. C'est mieux que d'aller une fois par mois 2 heures. Parce que 10 minutes, un quart d'heure, ils n'auront pas le temps de vous casser la tête. Ils auront du mal à trouver le moment et le bon moment pour essayer de vous. Ils seront obligés d'attendre qu'au niveau psychologique, ils trouvent l'opportunité d'essayer de vous faire du tort et de vous titiller. Donc, en 10 minutes, un quart d'heure, ils ne trouveront pas le moment. Ahlan, salam alaykoum, khalti labes, tatata, bisous, minna, ushrakoum, bikher, inshrab, yallah, vite, fais un petit café. Comment ça se passe à la maison, les enfants, là-bas? Vous imposez le débat. Et quand vous avez terminé, smahli, khalti, andi shoghol, il faut que je pars. Et vous partez. Je peux pas. Je m'en vais. Ça y est. Il vaut mieux venir plus souvent.
Et quand tu fais ça aussi, ils sont pas contents.
Madame, on s'en fout, mais en tout cas, ils n'auront pas l'opportunité de vous le montrer qu'ils sont pas contents. Ils vont ronger ça au fond d'eux-mêmes parce que vous serez parti, mais ils pourront pas, voilà. Et avec le temps, tout ça va s'estomper. Au bout de 2 ou 3 jours, ou même le lendemain, leur rage se sera estompé et ils attendront le moment où vous allez venir pour essayer de recommencer. Mais comme là, encore une fois, vous n'allez pas rester longtemps, eh bien, ça va bien se passer aussi. Donc toujours éviter de leur donner l'opportunité de s'organiser pour vous faire du mal. Et ça, ils ont besoin de temps pour ça. Et si vous leur donnez le temps, ils vont vous bouffer. Donc goadiré chouïa, zorriban tazdad hubban, dit le prophète. Zorriban, j'm'ana zorriban. Yani la tutil fi ziyara, la tukthir ziyara. Tazdad hubban, nasi bghou yhibouk, lianna al mafqoud marghoub. À partir du moment où vous venez rarement, vous allez voir que ça va les frustrer, ils vont être mal à l'aise. Mais malgré tout, oh, c'est dommage, il n'est pas resté plus longtemps. Eh bien, le fait qu'ils aient dans cet esprit-là, cette pensée-là, ils vont finir par vous apprécier. Ne m'attawlish ma'ahum al-hadra ou m'attawlish ma'ahum al-baqa fil bayt. Gu'adiri chouya ou al-khurji. Mais par contre, il faut venir plus souvent. Plus, au lieu qu'une fois par mois, dirait une fois par semaine. Mais gu'adiri 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et vous ne vous laissez pas prendre piégé à gu'adiri ou la mazal, al-qawa'ad ou jidna. Non, ma andi chelouart. Ara andi rendez-vous. Voilà, c'est tout. Je peux pas rester. C'est tout, c'est comme ça. Je reste pas. Je demande des nouvelles. Assalamu alaikum. Je consolide les liens de la famille et je m'en vais. J'ai pas à moi à m'éterniser, me sédentariser. Voilà, je reste là, madame. Allah Issel, il faut en parler hors ligne pour que, Inch'Allah, on puisse y trouver ensemble un moyen stratégique, Inch'Allah.
Soyons stratégiques. Alors, on a Nassira qui est avec nous, Imam Abdelalim. Nassira, bienvenue. Nassira.
Salam alaikum, Nassira. Ça y est, vous nous avez oublié, M'chiti. Oui, non, vous étiez parti, vous croyez qu'on va.
Enlevez le haut-parleur, Nassira.
Allah Nassira.
Sinon, on va vous couper le sifflet.
Voilà. Bonjour, Philippe, aussi, déjà pour commencer. Hein.
Comment ça va, Nassira?
Alhamdoulilah, ya khou, ya tiksaha khou, ya mashallah, alik. J'arrive pas à vous joindre plusieurs fois après le match.
J'ai cru que j'étais en vacances, Nassira.
Écoutez, j'étais en vacances, je suis revenue. Écoutez, moi j'ai une question. Yarni, très précieuse. J'ai fait une grosse connerie. Philippe est au courant, je crois. Écoutez, Imam Khouya Aziz. Voilà. Ouais. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, Anisma. Moi je ne coupe pas la parole aux gens.
Saha, merci Khouya Aziz. Merci beaucoup. Voilà, Anaya, on dit la bien. Le bien. On dit Firma, qui fait la France. Une grande maison à 2000 mètres carrés avec un garage et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mon fils Layahmo. Il m'a gâté beaucoup, il m'aimait beaucoup. Il m'a chéri beaucoup, mon fils, il m'a beaucoup chéri. Layahmo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné la villa pour mes petits-enfants.
Oui.
J'ai fait une donation. Hein.
Mais attendez, vous avez d'autres enfants?
Dans la journée, là, Hiberke.
Et vous avez donné toute la maison à l'un d'entre eux?
Aux petits-enfants.
Mais tout, la maison, la villa, le terrain.
Aux petits-enfants et à vos enfants. Vous n'avez rien donné. Non, mais c'est juste pour comprendre.
Oui, mais c'est vrai. Mais smahdi, je vais parler. Parce que mon fils a quitté, c'était ça fait 6 ans. Il m'a donné tout, il m'a aidé pour tout. Mais les autres, ils ne m'ont pas aidé. Ils m'ont donné même pas un centime. Parce que c'est 1 euro, 1 centime, je n'ai pas eu.
C'est-à-dire que vous pensez que la maison même que vous avez achetée, c'est votre fils qui vous a aidé à la construire?
Non, j'ai acheté toute cette maison. Ça fait 31 ans que je l'ai acheté, en 90.
Ah, d'accord.
J'ai peiné, j'ai travaillé durement. Alhamdoulilah. Et voilà, on m'a dit que je n'ai pas le droit. Mais mon fils, j'ai des photos, j'ai sa prunelle des yeux.
Et la question, c'est, on vous dit que vous n'aviez pas le droit de la donner à votre fils, c'est ça?
C'est ça la question.
Mes petits-enfants.
Oui, vos petits-enfants, qui sont les fils. Les enfants de votre fils qui est décédé, c'est ça?
Qui est décédé.
Les autres, ils sont encore vivants, c'est ça?
Ils sont vivants. J'en ai un, il est blindé. Il est blindé. Là, il berque. Il a une grande société. Là, il a des plus belles d'affaires français. Mais j'en ai deux autres. Mais
un des autres. Et l'autre, il a des ou la mzaïrine ou la kifa?
Non, écoute-moi bien. Il ne vient même pas me voir.
Nassira, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, la réponse.
Le prophète, alayhi salam, dit « Ittaqullah wa adilu bayna abnaikum ». Craignez Allah et soyez équitable envers vos enfants. Hein, le prophète, alayhi salatu wa salam, quand il a vu un homme qui avait pris dans ses bras son garçon et avait fait asseoir sa fille à côté de lui sans l'embrasser, sans l'étreiner dans ses bras, le prophète a dit « Tu as été injuste avec ta fille ». Pourquoi? Parce qu'il a simplement embrassé son garçon et il a pas embrassé sa fille. Il a dit tu as été injuste. Alors imaginez, là on parle pas d'embrasser, on parle d'accorder des richesses et des biens financiers à l'un de ses enfants au détriment des autres. Al-mafroud annak tkouni adila fi al-ata bayn al-abna. Maintenant, est-ce que vous avez le droit de faire ça? La réponse est oui, vous avez le droit de faire ça. C'est bien entendu du cas par cas, parce qu'effectivement il faut étudier la situation un par un. C'est pour ça que pour ça que moi j'étais soucieux de savoir quel est l'état financier des autres enfants. Philippe, tu l'as interrompu certes, mais c'est vrai que c'était important pour que je puisse répondre correctement, c'est de savoir quelle est la situation matérielle des autres enfants, pour savoir si elle donne à ses petits-enfants peut-être qu'ils n'ont rien.
Mais vous répondez d'un point de vue islamique. Hein.
Ah oui, oui. Le premier avis est un avis moral islamique. Mmh, oui. La morale islamique.
Parce qu'après, il y a le droit français qui considère que vous ne pouvez pas déshériter vos propres enfants.
Oui, mais même par une donation. Non, mais la question, peut-être c'est en Algérie, attention. Hein. En tout cas, moi je parle d'un point de vue du droit musulman, comme tu as dit Philippe. Est-ce qu'on peut donner à l'un de ses enfants la réponse juridiquement parlant, oui, mais moralement, non.
On reviendra là-dessus.
On reviendra, Inch'Allah, sur la question des hibas, des donations.